Hey, I can't find nothing on the radio.
La mécanique des ondes.
Yo, turn to that station.
Mécanique.
Bienvenue dans la mécanique des ondes, 52e numéro de l'émission qui parle radio dans la radio et de carrière radiophonique durant 40 minutes. Et aujourd'hui, je reçois un journaliste qui a plusieurs cordes à son arc et un ton bien à lui. Certains auditeurs de longue date d'une certaine radio rock s'en souviennent encore de mon invité pour un personnage bien décalé. Mais aujourd'hui, on le connaît sur France Info pour avoir débattu de l'actualité à 20h avec des informés et pour parler désormais tous les matins de choses que nous partagerons aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, c'est son parcours radio qu'il vient partager avec nous. Mon invité se nomme Jean-Mathieu Pernin. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. En tout cas, je suis ravi.
Ravi également, surtout qu'on a déjà reçu des collègues journalistes de France Info dans cette émission. On en parlait juste avant de commencer l'émission.
Tout à fait, voilà. Ils m'ont dit des choses merveilleuses sur votre propos. Ah. Voilà, peut-être que je vous le dirai tout au long de l'émission, je ne sais pas encore. Voilà, ce sera des petits cadeaux que je vous donne.
Ah bah je suis flatté. Et justement, on va commencer tout de suite sans plus tarder avec la première question traditionnelle de cette émission. Vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que cela vous rappelle des souvenirs ?
Alors totalement, un très beau souvenir. En fait, ça me rappelle une petite maison qui était au fin fond du 14e arrondissement de Paris. Parce que moi, j'ai commencé la radio. C'était donc à la fin des années 90 et c'était sur Ado FM. Alors Ado FM aujourd'hui est professionnel, c'est une radio plutôt R&B, ce qui n'existait pas du tout encore à l'époque. Et c'était une radio associative qui se situait donc à côté d'Enfer Rochefort, place d'Enfer Rochefort. Et moi je voulais absolument faire la radio parce que depuis que je suis petit, en fait j'écoute la radio. J'ai un père qui a toujours écouté beaucoup de radio, donc j'écoutais beaucoup de musical parce que je m'intéresse à la musique et donc j'écoutais beaucoup de musical comme Oui FM, Nova, mais également Skyrock quand c'était pas du rap. Hein. Et oui, il faut dire une chose. Moi, par exemple, j'ai découvert Nirvana sur Skyrock. Voilà, ça paraît assez bizarre. Et ensuite, donc, je voulais absolument en faire, et je ne savais pas du tout. Alors, est-ce qu'il faut faire une école, faire tout ça. Et moi, on m'a dit, bah, va voir des radios associatives. Et des radios associatives, c'était pas toujours évident d'y rentrer. Et moi, je me dis, bah, pourquoi ne pas aller voir cette radio que je n'écoutais absolument pas, qui s'appelle Ado FM. À l'époque, ils donnaient leur chance à tout le monde.
Mm-hmm. Oui, c'est une radio pour les jeunes, par les jeunes.
Et voilà, c'est ça.
On avait reçu justement en janvier dernier Florian, qui est encore animateur, enfin dans la maison, plus à Ado, mais à Latina, mais qui a justement commencé sur Ado alors qu'il était bachelier.
Tout à fait. Et c'était super parce qu'on arrivait, donc fallait rencontrer la directrice, qui était pas très simple, qui s'appelait Isabelle Da. Donc c'était vraiment une petite maison avec un étage dans le 14e arrondissement, donc c'était presque un fantasme en fait d'amateur de radio parce qu'on était confiné dans notre petite rue rue Gassendi dans le 14e arrondissement et là on avait proposé un projet une émission musicale, et ce qui était grandiose c'est qu'on faisait ses propres playlists. Alors playlist, ça veut dire le choix en fait de la musique, parce qu'il y avait une discothèque dans Ado FM, et là on pouvait la faire. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé la radio, avec forcément un professionnalisme à toute épreuve dès la première antenne, et ça reste un souvenir, je pense, pour tout le monde au fin fond du cœur.
Et vous avez quel âge à ce moment-là ?
À cette époque-là, j'ai 16 ou 17 ans.
D'accord.
Voilà, c'est dans ces zones.
Et alors, justement, vous disiez que c'était essentiellement des émissions musicales.
Oui.
Mais alors, le journalisme, comment vous y êtes venu ?
Alors, le journalisme, c'est parce qu'en fait, je faisais des émissions musicales, mais on faisait des petites blagues, en fait, on s'amusait de l'actualité. J'ai toujours aimé l'actualité. Et l'actualité, c'est pour moi, ça a été une lecture de journaux quotidiens, c'est d'écouter la radio, c'est de regarder la télé, de tout prendre, de tout bouffer, vraiment de manger. J'ai consommé. J'étais pas forcément un grand fan d'information continue. J'aimais faire ma propre critique, donc je lisais beaucoup de politique d'international. L'économie, j'ai dû m'y mettre pour faire des émissions sur France Info. J'avoue que là, bon, ça a été un peu compliqué quand vous commencez à parler des taux de la Banque européenne. Mais ensuite, le journalisme, je m'y suis mis aussi. Alors, pour tout vous dire, voilà, c'est une confession, j'aime beaucoup voilà, votre côté sur le divan. C'est parce que quand j'ai eu mon bac, qui était tout à fait improbable, je me suis inscrit en fac d'histoire. Et bien sûr, comme tout bon étudiant, je n'ai fait qu'un mois en fac d'histoire. C'était à Tolbiac. Et juste en face, il y avait une école qui s'appelait l'ESJ. Et je me suis inscrit et je me suis dit, tiens, pourquoi pas être journaliste.
Tout simplement.
Tout simplement.
Et journaliste spécialité musicale, ça ne vous aurait pas branché ?
J'aurais aimé ça, mais c'est très difficile parce que, en fait, moi, je suis tombé dans une période où Internet arrivait, donc l'industrie musicale explosait, et en même temps, on est en France, contrairement à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis, où le journalisme culturel, j'en ai fait ensuite du journalisme culturel sur du théâtre et de la musique, mais le journalisme culturel écrit a beaucoup de difficultés. On le voit aujourd'hui, des titres comme Rock et Folk ou même Les Inrecuptibles, à vivre, c'est difficile pour eux. Et donc, moi, je suis vraiment tombé dans cette période où il y avait beaucoup, beaucoup moins d'embauches à ce niveau-là, donc j'ai préféré m'orienter vers autre chose.
Et alors, à l'ESJ, qu'est-ce que vous y apprenez?
Alors, qu'est-ce que j'y apprends? J'y apprends comment faire une bombe à eau, par exemple. Parce que, alors, une bombe à eau, je n'ai jamais réussi dans toutes mes années de collège à faire une bombe à eau. Et là, j'ai pu réussir à faire une bombe à eau. En fait, dans ce qui était formidable à l'ESJ, c'était de pouvoir assister à des cours magistraux. Moi, j'ai fait des cours magistraux sur l'islam, sur l'ex-Yougoslavie, sur plein de choses. Après, la pratique du journalisme, moi je dirais véritablement, ça m'a pas appris grand chose. Ce qui m'a appris, c'est le stage. Faut faire des stages. Faut se confronter au réel. C'est ce que vous faites là dans une radio associative. C'est bouffer du micro, véritablement. C'est un peu du jargon radiophonique, mais c'est ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça, moi, que j'ai pu obtenir un stage à OuiFM, où je suis resté quelques années.
Alors justement, OuiFM, comment vous y êtes entré? C'était par une annonce?
Alors
OuiFM, spontanément?
Il y avait une petite annonce à l'ESJ, et on me l'avait piqué, cette annonce. J'ai dit, mince, j'adorais cette antenne parce que moi, j'écoutais toujours Cadet Olivier à l'époque, il faisait le Rock'n'Roll Circus. Et je voulais absolument travailler sur cette antenne. Mais je me suis dit, faire du journalisme à OuiFM, c'est bizarre, c'était juste une présentation de flash, c'est pas ça. Et moi, il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit, oh là, j'en ai marre de ce stage, ils sont pénibles à OuiFM, il y en a un qui embête tout le monde, c'est un humoriste qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle Daniel Morin. Je dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais quand même y aller. Et moi, j'aimais bien une émission à l'époque qui s'appelait Le Monde de Monsieur Fred. Voilà. Et le truc, c'est que donc j'arrive, et moi, mon but secret, j'avais un plan derrière, c'était de présenter des journaux, de faire des sujets, mais aussi d'intégrer cette émission. Et donc j'ai pu, en fait, j'ai tissé des liens avec Daniel Morin, et puis petit à petit, j'ai écrit aussi, en plus des flashs que je faisais à OuiFM, parce que j'aime la musique, j'aimais aussi les animateurs de OuiFM, donc je voulais absolument y travailler, et j'ai intégré cette émission, Le Monde de Monsieur Fred, qui n'avait plus rien à voir avec le journalisme, mais qui était de l'humour pur et dur.
Et vous y incarniez un personnage qui se nommait Léon Tom Cruise.
Voilà, Léon Tom Cruise. En fait, avec Frédéric Martin, au départ, j'incarnais un personnage et après, j'ai écrit des sketchs avec lui. Et c'était un vrai travail. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu... Parce qu'en parallèle, j'étais comédien, donc je faisais d'autres choses. Et j'ai pu, là, vraiment mettre ma plume au service de l'humour parce qu'il fallait écrire presque une mini-pièce de théâtre par jour, par soir. Donc c'était très très compliqué, très difficile. Mais grâce à Frédéric, j'ai compris une chose, c'est que l'humour pouvait avoir de la musique. Et c'est comme ça qu'il fallait avoir des phrases qui tapaient, qui sonnaient, et essayer de développer. Et c'est comme ça que ça a pris. Et surtout, après, on a pu faire de la scène avec cette émission, notamment à La Cigale, pour terminer. Et ça, c'était extraordinaire. Une expérience incroyable.
Et alors, du coup, votre quotidien à OuiFM, comment ça s'organisait?
Alors, le quotidien, au départ, quand j'étais stagiaire, eh bien, c'était d'arriver à 8h le matin, de voir avec la rédactrice en chef, c'était un reportage qu'on faisait dans la journée. Voilà, un reportage plutôt sur la vie parisienne ou culturelle. Ou alors, si on présentait des journaux, bah, c'était de présenter des journaux toute la journée, hein. C'est un peu laborieux, c'est un peu les prolos de la FM, hein, c'est un peu ça. C'est-à-dire de présenter un journal de 8h jusqu'à 17h. Et ensuite, quand j'ai commencé à écrire des sketchs avec Frédéric Martin, eh bien, j'allais à 10h chez lui. Et on écrivait toute la journée les 40 pages quotidiennes, 40 ou 30 pages quotidiennes. Et après, on allait, donc c'était entre 23h et minuit, on grignotait un bout. Et puis après, on allait faire notre émission comme une pièce de théâtre qu'on allait jouer, en fait, notre émission, pas faire notre émission. Et puis après, la nuit nous appartenait.
Et justement, à ce moment-là, est-ce que vous n'aviez pas eu envie vraiment d'évoluer à 100% dans la comédie, ou vous vouliez garder quand même un pied dans le journalisme?
Alors, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, non, moi, j'ai toujours aimé mélanger journalisme et divertissement. C'est toujours quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois que la plupart des sociétés de production cherchent, ah, mais comment on fait de l'infotainment, comme on fait aux États-Unis? Il n'y a pas déjà à chercher comme à faire aux États-Unis. Il y a à faire comme on sait faire en France. Je pense que le problème de l'infotainment comme aux États-Unis, c'est qu'ils demandent souvent à des comédiens de devenir journalistes, alors qu'en fait, il faudrait que ce soit des journalistes qui deviennent comédiens. Moi, j'ai cette chance d'être à la frontière des deux. Je n'ai pas pu continuer à l'époque parce qu'en fait, on a été renvoyé de OuiFM, tout simplement, parce qu'à un moment, la radio a été rachetée. Et donc, on s'est tous fait renvoyer. Alors, certains avaient déjà tenté leur chance ailleurs, comme Daniel, par exemple, Morin, lui, était parti sur France Inter. Et ensuite, moi, j'ai pas pu faire ça. Donc après, j'ai voyagé, j'ai fait d'autres choses. Mais il fallait voilà, que je trouve ailleurs un autre métier. Et donc, je n'ai pas pu continuer, j'ai pas pu concrétiser ça. Mais peut-être, hein, ça peut continuer. On sait pas ce que la vie nous réserve. Il y a plein de choses encore à faire. Donc, pour l'instant, j'ai pas continué purement dans la comédie, mais j'ai pu continuer dans l'écriture, voilà, en écrivant des scénarios, des choses comme ça. Donc, ce que je fais en plus de mon métier de journaliste.
Oui, c'est ce que vous faites aussi un peu sur France Info, notamment, je pense, à certaines séquences des Informés, et puis même votre chronique actuelle.
Ouais, tout à fait, voilà. Alors, c'est, en fait, les informés, c'est Laurent Guimier, qui aujourd'hui est parti sur Europe 1, quand il a pris les rênes de France Info, qui m'a demandé d'animer une émission de débat. Il n'y avait pas d'émission à l'époque sur France Info. Il y avait c'était un journal permanent, il n'y avait pas d'émission. Donc, fallait créer une émission. Et à 20h, on prenait pas trop de risques, franchement. Qui écoute à 20h, c'est ridicule. Les gens s'énervent dans leur voiture, voilà, ça ne sert à rien. Et donc il m'a dit, avec Tonton, t'as qu'à créer une émission de débat. Je fais, une émission de débat, voilà, c'est pour faire comme les grandes gueules d'RMC, moi j'écoute pas du tout, j'aime pas ça, donc je ne veux pas. Et il m'a dit, si, je suis sûr que tu vas pouvoir le faire. Je dis, ok, si j'ai les coups des franches. Et les coups des franches, c'était de pouvoir me réserver des petites parties pour introduire les débats. Et c'est comme ça que ça a pris, et c'est une des parties du succès. C'est-à-dire, une des parties du succès, c'est d'avoir mélangé les personnes à l'antenne, d'avoir imposé un ton qui était totalement libre, et surtout d'avoir été contre les critiques qui étaient au départ, oh là là, une émission à France Info, ça ne marchera jamais.
Alors, on va y revenir justement sur les informés plus en détail tout à l'heure, justement. Là, vous avez pris un peu d'avance.
Toujours, à toujours.
Ah, vous êtes journaliste en même temps.
Oui, c'est pour ça, voilà, c'est normal. Je sais ce qui va se passer juste après. Je préfère ne pas le dire aux auditeurs.
Mais on va y revenir tout à l'heure. Juste le temps de passer à la première pause musicale, Jean-Mathieu Pernin, avec un morceau que vous avez choisi, un morceau bien rock'n'roll, justement. Voilà. Les Clash avec...
Death or Glory, c'est ça, je crois. Si vous avez bien voilà, noté ou pas. Non,
non, j'avais plutôt I'm Not Down.
Ah bon? Ça alors, ah, oui. Ben oui, non, c'est moi qui me suis trompé, voilà, je fantasme sur ce morceau.
J'ai vérifié mes sources.
Mais oui, vous faites bien, donc I'm Not Done, voilà, on est fait un alors, très bon morceau des Clash.
I've been thrown out, but I'm not down. No, I'm not down.
Morceau choisi par Jean-Mathieu Pernin, invité de la mécanique des ondes aujourd'hui sur Fréquence Protestante. The Clash avec I'm Not Down. Très bon morceau.
Ouais, merci, merci, merci.
Qui devait tourner souvent sur WeFM, justement,
alors,
à l'époque.
C'était, alors, ça ne tournait pas véritablement. Mais en fait, pourquoi j'ai choisi ce morceau? Parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup le rock. Alors, je sais que c'est un genre qui se perd un petit peu actuellement, où on a beaucoup d'artistes un peu neurasthéniques. Hein, on est dans une ambiance, que ce soit dans le rap ou l'électro, très molle. Et moi, j'ai toujours aimé le rock. Et notamment, les Clash, pour moi, est le symbole du rock. C'est-à-dire que quand j'étais ado, j'aimais le punk, forcément. Et donc, les Clash en sont l'un des symboles. C'est un groupe assez intransigeant, toujours très sûr de ses opinions, aussi bien politiques que musicales, et qui n'a jamais renié ce qu'il était. J'avoue qu'à WeFM, une de mes plus grandes fiertés, moi, je traînais souvent dans la rédaction de WeFM, et juste avant, il y a une personne qui s'appelle Dom Kiris. Dom Kiris, c'est un petit peu, nous, on l'appelait le menhir vraiment de WeFM, parce que notamment, il est breton, mais en plus, parce qu'il tient là depuis les années 80. C'est un historique, c'est lui qui a réalisé toutes les interviews de rockers à WeFM, et notamment, c'est lui qui a quand même cassé un bras aussi à Liam Gallagher, donc un des frères d'Oasis. Donc, voilà, il avait un grand respect dans une bagarre à l'antenne, en plus, qui se passait à l'époque dans un bar à Paris, donc c'était assez, assez mythique. Et un jour, il reçoit Joe Strummer, le chanteur des Clash. Alors moi, je n'en pouvais plus. J'étais là, j'étais un fan, mais pire qu'un fan de Britney Spears en sachant qu'elle allait arriver. Et là, à un moment, on voit une personne donc, qui avait quand même un CV rock, mais plus long que les deux bras. Il arrive tranquillement à WeFM, lunettes de soleil, avec un pack de bière, tout seul. Et lui, il arrive. Et à un moment, moi, j'étais en train de me débattre pendant ce temps-là. C'est un épisode passionnant avec la photocopieuse. Et à un moment, j'étais en train de m'énerver. Et là, je vois un type qui me parle un anglais, mais effrayant, comme on peut trouver au fin fond de Shoreditch. Et il me dit, mais il y a un problème, tu veux que je t'aide? Et là, je me retourne et là, je vois que c'est Joe Strummer. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est à lui. Et moi, j'ai dit, mais, et en fait, comme un idiot, j'ai dit oui. Et donc, voilà, Joe Strummer qui commence à travailler la photocopieuse de WeFM, en fait. Et donc, il n'était pas là pour ça du tout. Et donc, c'est là où j'ai pu voir l'humilité d'un des plus grands rockers de l'histoire, qui était là, contrairement à plein de groupes de rock qui étaient là avec 50 000 personnes autour d'eux, des staffs, et qui ne faisaient même pas un album. Et donc, ça peut apprendre beaucoup de choses, en tout cas, sur l'humilité et sur ce qu'est le sens du travail par rapport à son expérience.
Ouais, très belle anecdote, en tout cas. Hein.
Et oui, la photocopieuse, c'est important.
Oui, il n'y a que dans une petite maison comme WeFM que ça peut arriver.
Voilà, parce que WeFM c'est une très belle expérience pour moi, et c'est encore quelque chose qui est ancré, parce que c'est j'ai rarement ressenti une telle fusion et une telle passion pour le travail de ce qu'on faisait à l'antenne qu'à WeFM. Après, j'ai travaillé aussi bien à France Inter, j'ai fait quelques piges à droite à gauche, ou à France Info, bien sûr, on s'entend tous. Mais là, on avait tous le même âge, on avait tous envie d'une chose, c'était de s'amuser, c'était d'avancer ensemble avec une même passion qui était le rock. Et le rock, à l'époque, de nouveau, était dans le creux de la vague, ça allait remonter juste après. Et donc, nous, on avait l'impression qu'on avait notre truc à nous qui nous appartenait. Et d'ailleurs, la radio faisait des très bons scores sur l'Île-de-France parce qu'on avait toute cette même passion, on était poussé dans un même train qui allait tout droit, on savait pas où il allait s'arrêter, c'est ça qui nous amusait justement. Et donc WeFM, je pense, tous ces gens qui y ont participé entre 99 et 2010 vous diront la même chose, c'est qu'il y avait un côté très famille, on y arrivait, on pouvait mettre des chaussons, il y avait toujours quelqu'un à qui parler, avec qui s'amuser, avec qui se confier, et donc ça a été une expérience incroyable.
C'est ce que Linda Laura nous disait aussi il y a quelques mois dans cette émission, elle garde très bons souvenirs. Mais justement, est-ce que vous avez gardé contact avec toute cette ancienne équipe?
Oui, il y a une personne qui était passée dans votre émission qui s'appelle Francis Viel, qui travaille à un moment aussi au Move, qui est un très très bon ami à moi, qui aujourd'hui a des projets musicaux géniaux, qui fait de la surf musique, voilà, c'est chouette. Linda Lorrain, donc on se voit pas souvent, mais on peut garder des contacts. Et puis quand on se croise, c'est toujours, je vois Daniel Morin de temps en temps qui est à France Inter, Frédéric Martin, bien sûr. Et puis les autres, forcément, dès qu'on se croise, on a 5000 trucs à se dire, alors que ça fait 10 000 ans qu'on s'est pas vu. C'est pas grave. Et puis on se reverra pas après pendant 10 000 ans. Mais il y a quelque chose, on sait qu'on a partagé ensemble et qui restera toujours. Et c'est ainsi. Et donc on a vraiment fabriqué quelque chose dont on est assez fiers aujourd'hui.
Et donc cette époque, c'est terminé, comme vous l'aviez dit tout à l'heure.
Ouais.
Donc l'après WFM.
Alors l'après WFM, ça a été du voyage, ça a été un hold-up complet, c'est l'arrivée à Radio France en fait.
Alors comment on passe de WFM à Radio France
alors,
justement ?
On passe déjà par alors ce qui s'appelle une chose assez commune en France aujourd'hui, le chômage en fait. C'est, voilà le chômage où là quand vous arrivez donc à la NPE, donc à Pôle Emploi, quand vous dites bah moi je travaille en radio et là vous voyez la personne devant vous se décomposer en disant mais je n'ai pas de travail pour vous monsieur, ça ne rentre pas dans mes cases. Donc on va dire que vous cherchez du travail, voilà, ça suffit exactement. Et donc après petit à petit à force de persuasion, j'arrive à France Bleu Paris. Où là une personne dont je me rappelle plus le nom qui était d'origine anglaise me donne la possibilité de faire une chronique et qui était une arnaque absolue, je le dis maintenant hein, qui était de chroniquer des DVD. Voilà, de chroniquer les DVD, donc il n'y a rien à dire hein, sur les DVD, puisque c'est des DVD, ce sont des films. Et donc je fais ça, et en fait, moi j'ai eu une idée, c'était plutôt, comme c'était une radio parisienne, d'aller voir, d'aller voir des spectacles le soir, puisqu'à Paris il y a une offre de spectacles qui est pléthorique, aussi bien musicale que théâtrale, et d'en parler le matin. Donc c'est ne le faites surtout pas parce que vous perdez 10 ans de vie hein, forcément vous ne dormez pas, mais là on me donne cette possibilité. Et cette personne là c'est une autre personne qui va compter pour moi en radio qui s'appelle Francis Tiskevitch qui va ensuite me permettre, il aime bien mon ton etc, et il va me permettre d'arriver sur France Info puisqu'il va diriger co-diriger France Info et il va me donner une rubrique culture sur France Info. Et en même temps arrive la chose qui est que je vais travailler également au Fou du Roi avec Stéphane Bern sur France Inter en même temps. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à l'époque, c'était que France Info et France Inter, c'est pas les plus grands amis du monde. D'ailleurs, qu'on est dans le même groupe, mais vous savez ce que c'est, dans le même groupe, on se titille en permanence. Donc normalement, les passerelles ne se font pas trop. Et moi, je suis arrivé à France Info en disant, hey, c'est super, je travaille à France Info et France Inter. Et là, personne ne me félicitait. Et donc, voilà, finalement, tout ça s'est fait en bonne entente. Et donc, je suis arrivé comme ça à Radio France.
Et alors, qu'est-ce que vous apprenez à France Info? Est-ce que cette nouvelle aventure vous a apporté de nouvelles choses, vous a permis d'évoluer?
Il y a une chose qui est formidable à France Info, c'est, moi, j'ai fait beaucoup de choses à France Info en 8 ans. J'ai fait aussi bien des chroniques que, par exemple, des carnets de voyage. J'ai fait des carnets de voyage, à un moment où je prenais une voiture, j'étais jusqu'au Cap Nord. En voiture par exemple, j'ai fait des reportages divers etc, et ce qui est formidable avec France Info, ce qui peut un peu faire peur au départ quand on l'intègre, c'est que vous êtes tout seul, totalement tout seul. À France Inter, c'est une émission, c'est une radio plus généraliste comme RTL ou Europe 1, où là, c'est des émissions, donc vous avez des gens qui viennent vous aider, etc. À France Info, les reporters sont très très bons pour ça, parce qu'ils font tout seul. C'est une école incroyable. Ça peut être décourageant, parce qu'à un moment, vous n'aurez jamais de retour, vous avez très peu de retour, mais en même temps, vous savez que vous devez vous former tout seul, et c'est une école extraordinaire, et surtout qu'à un moment, quand l'actualité s'emballe, vous devez la suivre. Il n'y a plus de temps de tergiverser. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a plus de temps de réfléchir, c'est qu'il faut y aller.
Et alors, vous parliez des carnets de voyage juste avant. Je pense que ça peut être intéressant de se pencher un petit peu dessus. C'est une idée qui était de vous qu'on vous a proposé.
Alors, en fait, c'était une idée de moi. Une idée de moi, parce que moi, il y a deux choses que j'aime, c'est voyager, écouter de la musique en voiture. Donc, je me suis dit comment je peux gagner de l'argent avec ça. Donc, ça n'existe pas, on ne gagne pas d'argent avec ça, sauf quand on écrit un projet. Et en fait, au départ, je suis allé voir justement Francis Tiskevitch, Philippe Chafonjon à l'époque. J'aurais dit, écoutez. Cet été, j'aimerais bien faire une chronique, c'est des sons de la Nationale 7. On m'a dit d'accord, mais tu le fais pas plan-plan, quoi. Et donc, dans les carnets de voyage, ce qu'il faut faire pour éviter que ce soit plan-plan, parce que ça peut souvent être pénible, c'est de mettre beaucoup de soi, véritablement de ce qu'on aime, la culture, la musique, etc. Surtout ne pas faire, je vous le déconseille, les caves de Roquefort à Roquefort, voilà, ça on s'en fiche. Ou alors, je ne sais pas moi, les calissons à Aix, hein, ça, bon voilà, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si vous mettez de vous-même, ça peut être intéressant, et de savoir ce que peut représenter cette route, la Nationale 7 de Paris à Menton, qui est un petit peu notre route 66 à nous, c'est totalement improbable parce qu'elle est très dure à trouver, parce qu'on fait tout pour ne pas la prendre justement. Donc il y a toute une métaphore aussi de notre monde. Et donc ça, je l'ai proposé et après ils ont adoré. Et donc ils m'ont dit, ah, ça serait bien que tu fasses autre chose. Et donc j'ai dit, ok, donc on va faire pile le contraire, on va prendre une voiture et on va aller jusqu'au point le plus au nord de l'Europe continentale. Et le point le plus au nord, c'est le Cap Nord en Norvège. Et donc là, à ce moment-là, j'ai pris la voiture à Radio France et j'ai fait 25 chroniques de voyage comme ça. Alors là, c'était un peu plus long parce qu'il fallait faire traduire, en anglais. Mais je me souviens toujours de cette anecdote assez marrante qui était le dirigeant du parking de Radio France. Je vais prendre une voiture à Radio France. On a quelques voitures pour les reporters et c'est une voiture siglée. Et là, il me dit, mais vous allez où comme ça? Je dis, je vais au Cap Nord. Il me dit, attendez, Gare du Nord, mais vous avez besoin d'une voiture? Je dis, mais non, ça n'a rien à voir, c'est en Norvège où je vais. Donc voilà. Et donc ça, c'était des expériences incroyables. J'en ai fait un autre aussi dans un Tour de France en bus. Donc ça, c'était des très, très belles expériences.
Oui, et puis c'est aussi une nouvelle forme originale de une nouvelle façon de faire de la radio aussi.
Tout à fait, complètement. Moi, je suis très attaché au récit. Je pense que c'est ce qui nous manque. Moi, j'aime bien les carnets de voyage. Ou suivre quelqu'un véritablement dans son épopée, c'est pour ça que j'aime bien le reportage aussi, parce que j'aime bien que la radio puisse, c'est une manière très légère, la radio, on peut en faire n'importe où, tout le temps, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que avec le son, en fait, on peut suivre quelqu'un au long cours, et c'est encore mieux aujourd'hui avec les podcasts, puisqu'on peut avoir des séries entières, comme Netflix, par exemple. Aujourd'hui, la radio, c'est le Netflix de l'oreille, quoi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on peut suivre quelqu'un, et je pense que ce récit malheureusement est un petit peu abandonné, sauf par certaines radios comme France Culture, mais je pense que des radios comme France Info, comme d'autres, peuvent aujourd'hui vous offrir ça, et c'est ça qui est extraordinaire à suivre.
Alors, les carnets de voyage, c'était en quelle année?
J'en ai fait, le dernier était en, c'est simple, c'était avant que je commence à les informer, donc nous étions en 2014.
Est-ce que vous referiez l'expérience à nouveau?
Sans problème. Alors ça, voilà. Si Fréquence Protestante me dit, allez, mon gars, tu fais le tour, du monde, pour nous en podcast, je le fais, oui, bien sûr.
Eh bien, le message est passé. Bon, et puis vous parliez aussi de France Inter, le Fou du Roi, ouais. En parallèle. Il y a eu aussi le Move.
Ouais, bien sûr, le Move. Ça, c'était une très très belle expérience. Vous remarquerez, si vous êtes un petit peu attentif à ce qui s'est passé le Move avant sa transformation en Move, que y a eu beaucoup beaucoup de gens de Bouy FM qui sont passés par le Move.
C'est justement c'est là-dessus que j'allais rebondir, parce que vous aviez fait des retrouvailles avec certains anciens du monde de Monsieur Fred.
Tout à fait, notamment Daniel Morin. Donc on avait fait une émission où là justement clairement moi je jouais un personnage qui s'appelait Jean Mamal Réac, et ça m'amusait énormément parce que c'était là on pouvait ouvrir les vannes totalement. C'était surtout pour aller contre deux idées qui étaient la première, on ne peut plus rire de tout. Donc moi je m'étais servi de ce personnage qui était en fait un réactionnaire dans un corps de jeune, donc ça paraissait totalement improbable. Il habitait Vichy, et donc on disait des horreurs absolues, et c'était en pleine période où les Zemmour, les Finkielkraut étaient invités de tous les plateaux télé, donc ça nous énervait un petit peu. Donc c'était comment s'en amuser avec quelqu'un qui les soutenait et qui les trouvait trop à gauche, justement, donc elle est encore plus loin qu'eux. Il y a eu ça, il y a eu également au Move, moi j'ai animé des matinales, j'ai fait plein de choses, et j'ai retrouvé des gens de Oui FM, en effet, parce que le Move passait du rock à l'époque, donc on aimait ça, et ça pouvait de temps en temps être plus intéressant que le rap ou le R&B, et on essayait de retrouver cet esprit de famille, parce que c'était toujours, quand vous alliez à Radio France, le Move, ça a pas eu des gros succès d'audience, mais il y avait un côté très famille, très entente, très copain, en fait, au Move, tout simplement. Moi, je suis arrivé seulement quand ils étaient sur Paris, avant ils étaient sur Toulouse. Je sais que ça a été quelque chose de très difficile pour le Move de passer de Toulouse à Paris, parce qu'on perd, il y avait des gens qui sont restés, d'autres qui sont partis. Mais c'est une radio, ça a été une radio intéressante. Je sais qu'on a pu s'en moquer à Radio France du Move. Et en fait, il y avait plein de gens passionnants qu'on retrouve aujourd'hui. Je prends par exemple un grand reporter de France Inter qui s'appelle Philippe Randet. Philippe Randet, il a commencé au Move. Il y a plein de gens qui ont commencé au Move. Émilie Mazoyer qui est aujourd'hui à Europe 1.
Jean Z,
Thomas Rosec, qui sont des très bons amis qui travaillent à France Info aujourd'hui. Ils ont commencé là. Donc, ça a été une radio pépinière de talent qu'on a un petit peu humilié à un moment, alors qu'elle ne demandait qu'à émerger et à être une radio qui voulait tout simplement exploser et montrer qu'on pouvait faire des choses pour les jeunes.
Et à vous entendre, Jean-Mathieu, moi j'ai l'impression que vous y retrouviez un petit peu ce côté esprit de famille comme vous l'aviez eu à Oui FM au début.
Oui, bien sûr. Alors moi c'est pas forcément ce que je recherche. Je sais que vous avez un petit côté Mireille Dumas, mais ce n'est pas forcément ce que je recherche. C'est vrai que on avait l'impression que tout était possible. Il y avait un côté laboratoire qui était hyper intéressant au Move. C'est ça qui était extraordinaire. Il y a certaines émissions que moi je n'aimais pas, mais forcément quand vous aimiez la musique, en fait on aimait le Move, parce que il y avait plein de choses. Il y avait Olivier Cachin qui était là à nous parler de rap, et puis après on nous parlait de rock, et puis après on partait sur d'autres continents, après on rigolait, enfin voilà, il y avait plein de choses à faire au Move, et donc c'est une radio qui m'a vraiment intéressé, sur laquelle ça m'a vraiment intéressé de travailler.
On va passer à la deuxième pause musicale tout de suite, Jean-Mathieu Pernin. Là, le deuxième choix musical que vous avez fait, c'est Fred Palem.
Ouais, tout à fait,
avec la grande ouverture,
parce que c'était en fait tout simplement le générique de mon émission que je présentais au Move, qui s'appelait le Pitch. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me touche et toujours sympathique à écouter.
Deuxième choix musical en hommage aux années Move.
Oui, c'est ça.
Au carré orange.
Exactement. Alors, il y a ça aussi. Alors, c'est Fred Palais. Mais pourquoi aussi j'ai voulu ça, passer ça? C'est parce que tous les amoureux de musique de film, dont je fais partie, aiment ce musicien parce qu'il passe son temps à rendre hommage à des musiciens de musique de film. Et voilà. Et donc, c'est notamment à François de Roubaix ou d'autres. Et donc, c'est Fred Palais. C'est un musicien vraiment intéressant.
En tout cas, donc, on retourne donc à France Info, Jean-Mathieu Pernin. Vous avez donc officié pendant quelques années aux 20h de la radio avec Les Informés, unique émission à l'époque de France Info, dans la grille de France Info. Ça vous a été proposé donc par Laurent Guibier.
C'est ça, exactement.
Et alors c'était pour expliquer ce qu'étaient Les Informés, ce qui est encore une émission continue, mais sans vous, on va y revenir. C'est une émission de débat où les opinions se confrontent.
C'est ça.
Mais aussi dans laquelle vous avez imposé votre ton à vous.
Voilà, alors c'est ça. Alors l'idée des informés, c'est au départ quand on me l'a proposé, c'était de faire une émission une émission de débat. Moi je m'étais dit une émission de débat, franchement il y en a 150. Donc j'avais dit donc à Laurent Guimier, si je peux imposer un petit peu ma patte, tant mieux. Donc j'avais carte blanche. Et l'idée surtout aussi était sur les invités. Et les invités, vous avez remarqué, si vous écoutez la radio, vous regardez la télé, c'est vrai que la première critique, c'est on voit toujours les mêmes. Moi, c'était surtout là-dessus que je voulais qu'on travaille. Par exemple, quand on avait des partenariats presse, on avait aussi bien Libération que Le Figaro. Moi, je ne voulais pas de Laurent Geoffrin. Je voulais Libération, mais je voulais pas Laurent Geoffrin. Je trouvais qu'on le voyait partout, comme pour Le Figaro, c'est très rare. Et moi, je leur disais aux rédactions, je dis, mais envoyez-moi des femmes, des hommes, mais différents, quoi, d'autres personnes. Surtout, et puis je voulais inviter des politiques, je voulais inviter des comédiens, je voulais inviter des chefs d'entreprise. Bref, je voulais en fait qu'il y ait une sorte de mini de photographie de la société, tout simplement, comme on discute entre nous quand on va dans un dîner en ville. Donc moi, j'ai toujours voulu que Les Informés, ce soit pas une arène, que ce soit plutôt une scène en fait de théâtre. Et donc à partir de là, on a commencé. Alors au départ, j'ai pas jamais réécouté les premiers enregistrements, ça doit être lamentable. Mais petit à petit, ça a pris et ça a pris assez rapidement, comme si en fait ça correspondait à l'époque et à un besoin des auditeurs de France Info d'entendre cette confrontation à 20h. Et puis surtout, on a bénéficié d'une chose, le gros succès d'Anne Hidalgo sur la circulation, c'est-à-dire comme il y a énormément d'embouteillages, les gens nous ont écouté davantage dans les voitures en fait. Et donc ça a permis le succès de l'émission et le succès de l'émission. En fait, est venu avec ça. C'est-à-dire qu'on entendait des nouvelles voix, on entendait des femmes surtout, parce que ça c'était toujours compliqué pour faire venir des femmes, et après le ton, accessoirement, que les gens aimaient bien. Donc ça a permis de trouver une sorte de cocktail assez improbable sur France Info, ça a trouvé sa place assez rapidement, dès 2014. Et puis, une chose, je me permets juste de le préciser. On a bénéficié aussi, ça c'est France Info, ça, on est tributaire de l'information. Donc on a pu bénéficier de choses qui sont parfois pas très amusantes, notamment des attentats, et notamment contre Charlie Hebdo. Nous, on avait beaucoup de gens de Charlie Hebdo qui venaient dans l'émission. Donc on a pu, des gens ont écouté davantage. Il y a eu aussi des choses comme la crise en Grèce, il y a eu l'élection de Donald Trump, et puis, voilà, sans se cacher, hein, la dernière présidentielle où on s'est gavé comme pas possible, parce que là ça a été le plus grand feuilleton que la France ait jamais produit. Donc là, ça a vraiment bien marché pour ça.
Et en preuve du succès des Informés, l'émission a basculé également à la télévision sur la version télé de France Info sur la TNT. Comment vous avez vécu cette bascule, justement?
Ça a été assez drôle parce qu'en fait, on a été l'émission test pour basculer. Parce que avant, France Info Télé donc est née, tout le monde fêtait ça. Et puis, à un moment, il y avait le test de passer à 20h33 radio-télé. Donc, l'offre, la promesse pour l'auditeur téléspectateur. Et donc, moi, on me dit dans la journée, Laurent Guillaume me dit, bon, bah, ça passera à 20h33. Je fais, ah bon, d'accord, bon. Mais comment on fait à 20h33, à un moment? Non, 34, je me souviens, c'était 34. 20h34, mais il y a un moment, on est en plein débat. Il fait, oui, c'est fait exprès, comme ça, vous faites pas attention. Je fais, non, mais attends, franchement, Laurent, tu crois qu'on va pas faire attention d'un coup, qu'il va y avoir des lumières qui vont s'allumer, que d'un coup, on est à la télé? C'est improbable. Et puis finalement, je me souviens, à un moment, je vois arriver Delphine Ernotte. Je vois arriver Mathieu Gallet, je vois arriver Marie-France Aragos, donc de TV5 Monde, de Média Monde, pardon. Et je me dis, mais il se passe un truc, soit je suis viré, et tout le monde est venu me le dire, c'est très touchant, soit là. Et d'un coup, et Mathieu Gallet, en plus, je voyais pas parce qu'il est comme il est assez grand, en fait, sa tête était coupée, donc je voyais juste un corps qui bougeait. Donc j'étais un peu dans un truc, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, on me dit, ben voilà, c'est radio-télé. Et là, donc, c'est la première fois, donc, en France, qui a fait ça. Ça n'a strictement rien changé, hein, je tiens à vous le dire. Seulement, c'est que j'ai dû faire un petit speech, là-dessus, voilà, promettre qu'on allait faire plein de choses. Et puis après, ça s'est déroulé. Et en fait, autant vous dire, radio-télé, c'est intéressant, mais moi, j'ai toujours abordé ça comme une émission de radio, avant tout. Et surtout, il y a un studio où on ne voit pas, il n'y a pas de cadreur. Donc, on ne voit pas, ce sont des caméras automatiques. Donc, les gens sont assez détendus. Donc, ils ne font pas attention, sauf qu'ils doivent être maquillés avant.
Alors, on est rattrapé par le temps, ouais. Jean-Mathieu. Je veux juste revenir rapidement sur la fin des informés. Ouais. Vous aviez fait tout un petit speech de clôture. Je ne sais pas si on aura le temps de passer juste un petit bout, Arnaud.
Les informés de France Info, ça va se terminer. Voilà, je voudrais juste prendre un petit peu de temps, voilà, pour moi ce soir, parce que en fait c'est la dernière pour moi des informés de France Info. C'est voilà, beaucoup d'émotions. Je vous le dis, après 4 ans à débattre. Alors déjà merci à vous, hein, parce que vous étiez de plus en plus nombreux à nous rejoindre et vous le serez encore, puisque ça va continuer l'année prochaine. Moi je vais aller me lever plus tôt parce que je vais travailler en matinale. Donc voilà, on se connaît pas. J'ai l'impression un peu d'abandonner mon enfant en colonie de vacances en fait ce soir, pour tout vous dire. C'est vrai qu'on je connais pas, on sait pas, je sais pas ce que vous faisiez, voilà, pendant que vous écoutiez les informés de France Info, vous dîniez, vous apprêtiez à sortir, prenez une douche ou peut-être des choses, bon, je ne veux pas savoir, mais s'il s'est passé quelque chose, en tout cas, n'appelez pas vos enfants informés, ça pourrait le suivre pendant toute sa vie. À l'école, en tout cas, c'est une émission qui a pu donc vous informer, vous divertir, vous énerver, parfois ça je sais, mais au moins, voilà, ça gardait en vie, c'est le principal, parce que l'information aussi, c'est ça, hein, c'est de rester à vie.
Voilà, on va pas passer toute la séquence en entier, mais concrètement, à ce moment-là, comment vous vous êtes senti?
C'était pas toujours très agréable et c'était très touchant parce que de voir en fait, j'ai reçu plein de messages et c'est là en fait où parfois en radio vous rendez pas compte qu'il y a des gens qui vous écoutent. On se demande toujours ce qu'ils font et j'ai pu voir ce soir-là qu'il y avait énormément de gens et qu'on avait pu fédérer énormément de personnes de toutes sensibilités, de droite, de gauche, autre chose, des végétariens ou autre chose, et on a pu, et j'étais très très touché de voir tous les messages. Quand je le fais là, j'emmène pas large en fait, véritablement. Je mens pas quand je dis que je suis ému, parce que c'est, je l'ai porté avec d'autres personnes, des attachés de production qui m'ont beaucoup aidé. On était que deux à travailler ça, et envers et contre tout, on l'a travaillé. On a traversé plein de choses. Il y a eu des choses qui nous ont touchés, des choses qui nous ont énervés, comme n'importe qui. Des émissions qui ont complètement planté, d'autres qui ont vraiment réussi. C'est un grand moment de ma vie. Après, il y en aura d'autres. Et là, c'est un moment où j'en ai vraiment, vraiment pas large. Et c'était, on ne sait jamais comment dire au revoir. On dit toujours, on se pense toujours que ça va être simple, et ce n'est jamais le cas. Et ce soir-là, ça a été un véritable enfer. Et d'autant plus que voilà, c'était la dernière. Quand ça s'est éteint, ça a été assez dur. Ouais.
La mécanique des ondes.
Alors là, on est très pris par le temps, Jean-Mathieu Pernin. En tout cas, qu'on retrouve aujourd'hui à la matinale sur France Info avec, ouais, une nouvelle chronique. Vous le partagerez aujourd'hui. On n'aura pas le temps de revenir là-dessus, malheureusement.
C'est dommage, mais c'est une magnifique chronique. Hein, vous savez.
À retrouver également en podcast sur le site de France Info. On va passer à la partie questions de cette émission avec la question capsule pour commencer. Une question que l'invité de la précédente émission a déposée dans une petite capsule pour l'invité d'aujourd'hui, donc vous, Jean-Mathieu Pernin. Le mois dernier, nous avions eu Fred Pierre, directeur des programmes et de l'antenne d'une radio associative intéressante nommée Vivre FM, qui a une question pour vous intéressante.
Alors mon cher collègue, j'ai juste une petite question, savoir quelle serait ta radio idéale. Comment t'imaginerais ta radio, si tu devais en fonder une là, demain, qu'est-ce que tu ferais comme radio ?
Oula, alors, c'est très très simple comme question, ça, encore mieux. Alors, si je devais fonder une radio, je pense que je ferais une radio de nuit. En fait, tout simplement, parce qu'il y en a marre de se lever le matin, premièrement. Et une radio de nuit, non mais je ferais une radio en public en permanence, en fait. Parce que je trouve que, pour avoir fait pas mal d'émissions, notamment les informés dans des bars, ou des choses comme ça, je trouve qu'il y a une ambiance qui est incroyable, qui est une réception immédiate, hein. Je pense qu'on est tous nostalgiques du pop club de José Arthur, que, enfin, moi j'ai pas connu, mais qui devait être incroyable. Et je trouve, aujourd'hui, c'est comme à la télévision, on perd du direct, on perd le fait que ça soit pas en direct, et là en radio on perd qu'il n'y ait plus d'émissions véritablement en public, mais pas que les gens viennent en studio, non, qu'on aille les voir là où ils se trouvent, là où ils sont. Et pour moi, ça ne serait qu'une radio qui serait dans un bar. Alors peut-être qu'on entendrait, hey, Janine, une cinquième là pour la 12, voilà, tu me mets un paquet de clopes, bon, peut-être qu'on entendrait ça, j'aime pas ton saucisson, mais c'est pas grave. C'est ça justement qui fait que la radio, c'est avant tout un média de vie.
Et ça se perd un peu aujourd'hui.
Oui, tout à fait, et c'est bien dommage.
On va passer au questionnaire rapide, Jean-Mathieu, êtes-vous prêt?
Bien sûr.
Alors, une personnalité de radio
qui pourrait... Est-ce qu'il faut taper? Non, oh, non.
Oh, pff,
non,
c'est une option.
D'accord, très bien, d'accord.
Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle.
Une personnalité de radio qui pourrait... Je suis désolé, je répète, j'ai fait beaucoup d'interviews, c'est affreux. Une personnalité de radio qui pourrait être mon modèle, je dirais Edouard Baird.
Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence?
Je suis parisien, donc oui, FM.
Quelle radio vous réveille le matin?
La France Info, bien sûr.
Quelle radio vous endort le soir?
Quelle radio m'endort le soir? C'est plutôt Nova.
Un endroit où vous écoutez toujours la radio?
Eh bien, dans mon lit.
Un endroit où vous ne l'écoutez jamais?
Je l'écoute à la radio, quand je fais de la radio.
Votre meilleur souvenir de radio?
Mon meilleur souvenir de radio, c'est-à-dire mon souvenir d'écoute de radio ou de ce que j'ai fait en radio?
De ce que vous avez fait.
De ce que j'ai fait en radio, c'était une émission, je pense que c'est d'avoir fait La Cigale, pour le monde de Monsieur Fred.
À l'époque où il y a FM.
Ouais.
Et le pire souvenir?
Le pire souvenir, ça a été une émission après le Brexit pour France Info. On a fait ça dans un pub avec des Gallois ivres morts, et je me souviendrai toute ma vie de mon attaché de production qui arrêtait pas de se faire draguer par ces Gallois, et on devait en même temps les virer, parler des questions très graves de l'Europe et dire à l'autre qu'il était ordurier. Donc c'était très très compliqué. Il y avait Yannick Jadot aussi qui était là, qui a servi à moitié aussi de service d'ordre. Donc ça a été pas le pire, mais c'était le plus rigolo. En même temps, il n'y a pas eu de pire, véritablement.
C'est les aléas du direct,
on dira. Tout à fait, mais c'était le plus drôle.
Et enfin, pour terminer, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio?
Un conseil, faites-en, déjà. Faites-en, comme dans tout, je dirais. Surtout, ne croyez pas que c'est impossible. Moi, je n'ai aucun réseau, j'étais tout seul, j'ai frappé à la porte, on m'a donné ma chance. Si vous avez la possibilité de le faire, faites n'importe quoi, mais faites-le. Parce que c'est pas tant sur le contenu, c'est sur votre style, c'est sur votre manière d'être, c'est sur votre élégance qu'on vous jugera, ou même qu'on ne vous jugera pas, mais surtout, faites-le, comme faites des films, faites de la télé, faites ça, parce que ça ne sert à rien, en fait, d'avoir du réseau. C'est pas eux, ou pour de mauvaises raisons qu'on va vous employer, donc vraiment forcer la porte. Et puis si on veut pas de vous, bah vous passez par la fenêtre. Si on passe par la fenêtre, et ben vous passez par la cave, mais vous trouverez toujours à un moment une solution. Il faut le faire, tout simplement, faites-le. En plus aujourd'hui on a des moyens incroyables sur internet de pouvoir faire des choses, donc faites-le.
Eh bien merci Jean-Mathieu Pernin.
Merci à vous
venu.
En tout cas, c'était très sympa, merci.
Et nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de la mécanique des ondes, je vais y arriver. D'ici là n'oubliez pas, émission à retrouver en podcast comme d'habitude sur fréquenceprotestante.com et sur les réseaux sociaux de la mécanique des ondes.